La série de messages que nous avons commencé, débuté la semaine passée, qui c'est le thème « Lève-toi et brille ». Et il y a vraiment dans ce, dans cette, pas une responsabilité, mais dans cet appel que Dieu nous donne, oui, une responsabilité, mais il y a quelque chose, par exemple, qui est significatif lorsque tu veux te lever et briller. C'est que tu réalises qu'il y a de l'incompatibilité entre les ténèbres et la lumière. Il faut que tu fasses des choix. Il faut que soit que tu laisses la lumière briller sur toi ou tu prends une décision, dans le fond, de refuser que la lumière brille sur toi. Parce que c'est une invitation, c'est un appel. Et tu es comme un miroir. Le Seigneur dit, laisse-moi faire de toi le miroir de ma gloire. Laisse-moi briller sur ton visage comme j'ai brillé sur le visage de Moïse. Laisse-moi faire une œuvre à travers ta vie pour que les gens puissent savoir que j'existe et que j'ai un plan pour leur vie. Et lorsqu'on veut prendre cette marche de dire, Seigneur, lève-toi et marche, une chose qui devient extrêmement significative, en lisant les Écritures, tu te dis, c'est impossible de marcher, de briller sans être dirigé par l'Esprit. Mais marcher par l'Esprit amène quelque chose d'autre. C'est que tu laisses ta vie de côté pour lui permettre de diriger ta vie. Les choix que tu avais pris avant de savoir que maintenant tu es appelé à d'autres choses, tu dois faire une table rase. Tu dois mettre sur la table, sur l'autel et dire, Seigneur, choisis maintenant ce qui est juste de toi pour que je ne sois pas constamment déchiré. Et quand on dit qu'en Christ, c'est une nouvelle personne, les choses anciennes sont passées, c'est dans cette pensée que vous êtes appelé à marcher dans une nouvelle vie. Si vous voulez briller pour la gloire de Dieu, vous devez marcher en obéissance au Saint-Esprit. Et ça, c'est la clé pour une vie incroyable. Je vous le dis, c'est une vie qui dépasse tout ce que le monde pourrait vous offrir. Et pour vivre dans il y a un thème que vous allez entendre dans le milieu chrétien et qui revient souvent. Et quand on pose souvent la question aux gens de dire, ouais, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Parce que je comprends pas, c'est le mot prophétique. Il semble que dans la Bible, beaucoup de prophètes ont annoncé des choses qui devaient venir, qu'il y a des prophètes qui ont été eux-mêmes utilisés pour annoncer et faire des choses incroyables. Quand on parle de prophètes de l'Ancien Testament, on parle d'Abraham. Abraham s'est levé sur une direction de l'Esprit, sur une direction de Dieu, et il est parti pour aller à l'encontre de sa destinée. Et on connaît l'histoire. Dieu dit, je vais faire de toi un peuple qui n'existait pas avant. De toi, je vais faire naître un peuple. Et de ta descendance, il va avoir une royauté. Et de ta descendance, elle va être infinie, aussi nombreuse que les étoiles. Et on connaît aussi le thème prophète lorsqu'on voit l'histoire de Joseph. Comment Joseph a été utilisé par Dieu pour faire quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Comment qu'un homme rempli de l'Esprit peut tourner une nation pour qu'elle puisse être exposée à la gloire de Dieu. L'Égypte est à 100 000 lieues de la volonté de Dieu, mais parce qu'ils ont entendu une parole de vie, le cœur de cette nation s'est tourné pour que Dieu puisse agir. On connaît l'histoire aussi de Daniel. Daniel avait les conditions, sûrement que si on aurait l'un dixième de ces conditions, on serait peut-être les plus négatifs que la terre a jamais portées. C'est un esclave déporté, exilé de sa terre natale, séparé de sa famille. Il était seulement avec quelques amis. Il était mis au service d'un roi qui respectait absolument rien de ses origines. Et pourtant, Daniel s'est levé comme un prophète. Et non seulement a su gagner le cœur de ce roi, mais a su gagner le cœur de tous les rois et gouverneurs qui ont été en contact avec lui. L'histoire compte encore aujourd'hui que lorsque Daniel est mort, ses funérailles ont été deux fois plus longues que n'importe quel autre roi qui a existé dans le pays. Les nations pleuraient Daniel parce que Daniel amenait la paix, il amenait la justice. Et tous étaient connus. Puis encore aujourd'hui, il y a une stèle qui a été mise à sa mémoire. Et plusieurs nations regardent encore à l'histoire de Daniel en disant, c'est un prophète, un homme d'une grande sagesse. Et vous savez, c'est qui, l'Esprit qui est dans chacun des prophètes que je viens de vous nommer et aujourd'hui habite en vous. Ces histoires sont faites pour être répétées, sinon il n'aura pas été écrit. Ces histoires sont pour nous encourager que nous pouvons être une lumière pour tourner l'histoire d'une nation vers Dieu. Est-ce qu'on croit ça? Est-ce que vous croyez que vous êtes cette personne? Amen. Et il y a quelque chose qui est en train de prendre place au Québec. Il y a pendant longtemps où il y avait un esprit de petit pain, un esprit de petitesse. On disait tout le temps, petit avant n'importe quoi, je vais prendre un petit café, je vais prendre une petite vacance, je vais prendre un petit site, parce qu'on était tellement petit qu'on devait s'assurer que ça soit petit, parce que si c'était trop grand, ça avait l'air présomptueux, ça avait l'air trop orgueilleux. Il fallait que ça soit petit, parce qu'on avait une pensée petit. Mais le Québec, je crois qu'il n'est pas appelé à être petit. Les chrétiens, il fallait qu'ils comprennent ça, que le Québec est chef de file dans beaucoup de domaines, que ce soit dans les arts, que ce soit au niveau de la science, que ce soit au niveau de la littérature, du cinéma. On est fait pour briller. Mais Dieu attend qu'un de ses fils ou ses filles se lève pour briller pour lui. Pardon? Excellent. Répand, donne, sois généreux. Amen. Amen. J'aimerais commencer avec un témoignage. Comment briller? Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit vivre? Parce que le thème de mon message, c'est vivre dans le prophétique. Ça comporte quoi? Beaucoup de chrétiens ont dit, j'ai reçu une parole prophétique, mais je ne sais pas comment l'enclencher. J'entends le prophétique, je le vois, mais je ne sais pas comment prendre part. J'entends des Art Lucier qui viennent de nulle part et qui sont en train aujourd'hui de parler aux nations. J'entends des Richie qui arrivent et qui disent, moi, là, je suis un petit gars d'une petite ruelle, d'une petite ville insignifiante. J'avais aucune destinée, mais quand l'Esprit est rentré en moi, j'ai commencé à comprendre que j'étais une lumière. Et son témoignage a brillé à un point tel, il disait, nous, on veut marcher comme tu marches. Mais ici au Québec, dans notre petite localité, est-ce qu'il y a des prophètes qui se lèvent? Est-ce qu'il y a des gens qui se lèvent dans le prophétique? Est-ce qu'il y a des gens qui disent, moi, je crois que Dieu a tracé une voie, puis je veux y marcher, même si tout ce qui est alentour de moi me dit que ce n'est pas une voie sûre. Moi, je crois que si Dieu m'envoie, ça va être la voie la plus sûre que je peux vivre. Est-ce que vous êtes prêts à entendre un témoignage ce matin? Amen. Est-ce que tu peux venir, Daniel Wilkinson? Est-ce que vous connaissez Daniel Wilkinson? Amen. Président du chapitre de Saint-Jean-sur-Richelieu pour les hommes d'affaires du plein évangile, un homme rempli de foi. Rempli de foi. Beaucoup étaient assis et disaient, ouais, on va regarder ce que ça va donner. Mais vous savez, les prophètes, c'est des gens qui challenge, qui te rendent inconfortable dans leur façon de marcher. Soit qu'ils te disent, soit qu'ils t'amènent à dire, écoute, je ne veux pas me tenir avec ce gars-là, ou soit que tu veux devenir comme ce gars-là. Alors, j'aimerais ça qu'ils partagent ce que Dieu a mis sur son cœur.
C'est sûr que je ne pourrais pas tout vous conquérir parce qu'il m'a donné juste une demi-heure. Mais... l'histoire de la Gaspésie a commencé il y a 2-3 mois. L'esprit est venu sur moi une nuit. Puis, il faut que je vous dise qu'il y a deux places dans le Québec que je ne voulais pas aller. C'est en Abitibi et en Gaspésie. J'avais visité ces deux places-là dans ma jeunesse, puis je n'avais pas aimé ça du tout. Puis, le Seigneur me dit, une nuit, tu t'en vas en Gaspésie. Wow! Non. C'était un non, puis... Je dis, Seigneur, envoie-moi pas là, s'il te plaît. N'importe où, mais pas là. Il dit, tu vas là. OK. Il faut être obéissant à Dieu. Puis, je vous dis, depuis une couple d'années, à chaque fois qu'il me parle, je lui obéis. S'il me dit de faire, je le fais. Ça ne me tente pas tout le temps. Puis, c'est quand ça ne te tente pas que les choses arrivent en grand. Et puis, ce matin-là, j'ai dit, OK, Seigneur, j'ai dit, tu veux, j'y aille, puis sur mon téléphone cellulaire, Seigneur, ça sert de n'importe quoi. Sur mon téléphone cellulaire, il y a un petit rond, drôle même, qui est apparu. Puis c'est quoi ça? Puis là, j'ai cliqué, puis là, il y avait comme une maison qui est apparue. Puis je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Ça, c'est la place que tu t'en vas, parce que c'est une affaire que j'avais demandé de choisir la place. Je voulais pas faire le tour de la Gaspésie, je voulais vraiment que ce soit un endroit stratégique, et c'est ça, lui-ci, qu'il voulait. Et puis, j'ai dit, tu vas choisir les personnes qui vont venir avec moi? Tu vas choisir le véhicule, tu vas choisir la place où me dormir, parce que moi, je ne sais pas. Puis quand il va par la foi, ça, la foi, là, le 9 mois, quand ma fille est tombée enceinte, je dis, Seigneur, tu vas me donner une foi encore plus grande que ce qu'il y a caché, là, parce que ça va m'apprendre. Puis, quand j'ai ouvert ma porte de chambre ce matin-là, je dis, Seigneur, je rouvre la porte, mais je rouvre la porte de que toi, tu peux ouvrir. Je fais le pas de foi, maintenant, toi, rouvre les portes. Et toutes les choses que le Seigneur m'a dit, qui n'étaient pas arrivées avant de partir, quand on est arrivé là-bas, c'était ce soir. Vous savez, si je serais parti juste avec mon épouse, veux-tu te lever, chérie, s'il te plaît? Elle est tout petite. Viens en avant. Hey, je n'ai pas été là tout seul, hein. J'ai été là en équipe. Il y a Marcel et Diane, s'il vous plaît, venez-vous en avant. Je n'étais pas tout seul dans cette équipe-là. Venez-vous-en. André, il est là-bas, il est ici, André, il n'est pas là. Amen. Monique, est-ce là, Monique? Il n'est pas là non plus. On était une équipe. Et si j'avais été là juste avec ma femme, puis ça n'aurait rien arrivé de tout ce que Dieu m'a dit, puis que je leur ai dit à eux, bien, j'aurais dit, bon, il y a une mot, puis elle qui le sait. Pis. Mais quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu promet quelque chose, ça, c'est la foi qu'il m'a donnée. Je savais que ce n'était pas se réaliser. Mais j'avais quand même une pression sur les épaules. Seigneur, agis. Agis. Puis, tant que Marcel et Diane sont arrivés là-bas une journée avant nous, je les avais envoyés en éclaireur. Ça n'a pas. Ils ont fait des démarches. Et puis, moi, le Seigneur m'avait montré qu'il y a une madame qu'il fallait que je rencontre là-bas. Par 3 reprises, j'ai essayé de téléphoner d'ici pour lui parler, ça ne marchait pas. Puis le Seigneur dit, rendu là-bas, tu vas la rencontrer en arrivant. Et puis Marcel, il me dit, j'ai fait des démarches, il y a une madame qu'il faut rencontrer. Je dis, s'appelle-tu Gaétane? Il dit, oui, c'est ça. Je dis, yes, c'est elle. Je suis arrivé à 5h05, l'église fermait à 5h. Puis quand on est rentré dans l'église, je me suis ouvert de bord, puis la madame était là. J'ai dit, vous appelez Madame Gaétane? Elle dit oui. Ben, je dis, Seigneur, c'est à vous qu'il m'envoie. Mais tu sais, tu n'as jamais vu la madame, puis tu lui dis, tu as une vision du Seigneur, puis il nous envoie ici. La pression est tombée, parce que son visage s'est mis à sourire. C'est un visage rempli de la grâce de Dieu qu'elle avait. C'était magnifique. Puis tout ce que Dieu a dit qui n'était pas arrivé est arrivé. Il y a des personnes que Diane a prié, ils ont accepté Jésus dans leur vie. Marcel aussi. Chacun, il n'y avait pas là-bas personne. Je n'étais pas plus important qu'eux autres. Là. On était 7. Puis tout le monde avait un job que le Seigneur leur avait dit de faire. Puis on l'a tout fait. Merci Seigneur parce que l'autre chose qu'il m'avait dit, j'ai voyagé dans ma vie, pas énormément. Mais, il m'a dit, ce voyage-là, ça va être le plus beau voyage de ta vie. Oh, Seigneur, 3 jours en Gaspésie. Pas sûr. Quand je suis revenu, la minute qu'on est parti de là-bas, je me suis mis à pleurer dans l'auto parce que c'était le plus beau voyage de ma vie. C'était le plus beau voyage. Je ne sais pas si Marcel, tu veux... Je
vous dis oui, c'était tout de Dieu, il avait tout préparé. Mais je peux vous dire que le prêtre, on peut-tu l'appeler le prêtre, oui, qu'il était couché dans son auto, puis on a été le voir, et il était tout étonné, puis... En tout cas, il nous a testé avec bien des questions, hein.
Le tombeau. Oh,
Ça, c'était le samedi à 3h30. Puis il faisait son culte à 4h. Puis ça a été question des chants. Je voulais emmener des chants. Il y a eu une petite bataille. Puis, des coups, tout s'est placé. Puis après ça, il nous a remercié pour ces chants-là parce que on les a respectés. Il dit, vous avez des gens que vous respectez aussi. Puis on sait que c'est tout des psaumes. Ça vient des psaumes. Mais merci, Seigneur. Puis aussi, les gens qui ont accepté le Seigneur à travers ma belle épouse qui aime bien évangéliser. Puis aussi, je peux vous dire la nouvelle que j'en ai parlé un petit peu à toi, que parce que le prêtre, il dit, c'est bien beau, vous venez ici, puis c'est quoi qui va se passer après, là? Mais nous, on prie pour qu'il y ait des gens de la Gaspésie qui est tout proche. Mais j'ai rejoint l'église Espoir et Vie. Il s'appelle Danny Vézina. L'église de Saint-Anne-des-Monts, puis il va tout lui donner les coordonnées de tous les gens qu'on a accepté pour qu'ils puissent faire continuer le. Puis il est prêt à le faire. Merci Seigneur.
Juste un dernier mot à propos de ça, c'est que quand le prêtre il m'a dit ouais, mais c'est bien beau ça, tu viens de faire 12 heures de route, tu arrives ici, tu vas parler de Dieu, tu vas chanter, tu vas tout faire. Après ça, tu t'en vas chez vous, il ne se passera plus rien. C'est pareil comme s'il m'aurait donné une claque en pleine face. Ça. Puis j'ai dit, Seigneur, non, non, non. Wow. Non, non. C'est pas vrai que tu me parles de ça depuis 3 mois. Je suis venu ici, puis je m'en partais, puis il ne se passera plus rien. Puis là, il m'a dit, qui t'a dit qu'il ne se passerait plus rien? Wow. Wow. Puis c'est le prêtre. Il était supposé faire un sermon ce matin-là, hein, ça cet après-midi-là. Puis là, il arrive en avant, il dit, hey, il dit, c'est même pas de ça que je voulais parler. Il a parlé du feu de l'esprit. Wow! Ça, là, quand tu as eu fini, il dit, je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est pas ça que je voulais parler un matin. C'était formidable. Je souhaite cette expérience-là à tout le monde, mais être obéissant à la parole de Dieu, c'est magnifique. Tu avances, tout, on est parti, puis on ne savait même pas où on était pour dormir. puis, il nous a fait rencontrer une jeune fille de 22 ans, là-bas. Son nom, c'est Emmanuel. Dieu est avec nous. Il n'y a pas d'hasard. Puis le prêtre, cette journée-là, il était là. Mais si on y allait une semaine avant ou une semaine après, c'est là que c'est important d'être obéissant à la date que Dieu nous donne. Dieu m'a donné une date, puis c'est là qu'il fallait y aller. Pas une autre journée, c'est là. Amen. Merci, Joan.
Merci à vous pour votre témoignage. Vous savez, sur un autre plan. Lorsqu'on rentre dans le mode prophétique, là, c'est pas seulement de dire Dieu dit rentre, marche, moi je vais marcher avec toi, puis il y a beaucoup d'autres choses dans tes voies que je vais prendre part, je vais m'occuper. Toi, occupe-toi de cette voie-là et moi je m'occupe de tout le restant. Et Daniel l'a mentionné que sa fille est tombée enceinte il y a pratiquement 9 mois, 9-10 mois maintenant. Et pendant la grossesse, elle a eu un diagnostic. Le fœtus avait 3 maladies. Qui était dangereux même pour sa vie, et les chances de survie du bébé étaient pratiquement nulles. Et ces 3 maladies qui sont tellement rares qu'habituellement, on voit seulement à rares cas une maladie affectant un fœtus, mais là, dans ce cas-là, les spécialistes, ils disent, écoute, c'est comme si tu aurais gagné à la loterie de la malchance. Tu as les 3 maladies les plus dévastatrices pour un fœtus, puis ta fille les a. Fait que, ils ont même proposé, je pense, l'avortement, ou ils ont proposé de dire cet enfant-là ne se portera pas à terme. Et Daniel, il a reçu une parole de dire cet enfant-là va vivre. Et cet enfant-là, aujourd'hui, est né. Et les médecins continuent à faire les tests parce qu'il n'y a plus aucune maladie. Ils ne comprennent pas. Ils font des tests pour essayer de comprendre ce qui se passe. Lorsque vous marchez avec le Saint-Esprit, vous relâchez en vous la puissance de la vie. Où l'œuvre de la mort essaie de triompher, l'œuvre de l'ennemi triomphe. Il la rend en spectacle, la ridiculise en public. Et ça, c'est une puissance que vous devez connaître. Lorsque tu dis oui à Dieu, tu dis « OK, maintenant, prends la direction de ma vie. » Dieu dit « Excellent, je vais même régler les détails de côté. » Vous savez, Jésus a passé sa vie à marcher dans une vision prophétique. Il vivait dans la prophétie. Plus de 300 prophéties avaient été données au fil des centaines d'années, des milliers d'années avant, pour décrire qui il était pour être. Qu'il était un Messie, envoyé par Dieu. Sa naissance a été prédite. Le lieu de sa naissance a été prédit. Comment il devait naître a été prédit. Son caractère, ce qu'il amenait comme message, la puissance, mais surtout sa mort, mais surtout sa résurrection. Il a accompli 300 prophéties, dont la majorité, on dit à peu près 275 dans l'espace de deux ans et demi, trois ans, il a accompli 275 prophéties. La majorité des prophéties, il ne pouvait pas les accomplir. Il fallait que les hommes prennent des décisions sur sa vie pour que les prophéties s'accomplissent. Or, on ne peut pas, en lumière des prophéties, ne pas constater que Jésus est le Fils de Dieu. Et il reste encore une soixantaine de prophéties qui le concernent et qui le concernent concernant son retour. Alors, vous pouvez vous tourner et de dire « Jésus revient bientôt ». Ça, c'est sûr, dans toute sa gloire. Amen. Alléluia. Mais voici ce que Jésus nous dit. C'est-à-dire, la vie que j'ai vécue est un exemple pour vous. Calquez vos vies sur ma vie. Parce que l'Esprit qui est à l'intérieur de moi, ce que Jésus disait, l'Esprit qui est à l'intérieur de moi me révèle tout ce que je dois faire pour accomplir la volonté de mon Père. Et je dois partir pour que vous puissiez recevoir le même Esprit pour accomplir aussi la volonté de mon Père. Parce que vous et moi, nous sommes appelés à siéger sur le même trône, assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous régnerons. Alors, cette vie prophétique doit être saisie pour l'ensemble d'entre nous. La différence pour les gens qui connaissent la vie prophétique, ils savent. Il y a une conviction parce que l'Esprit leur dit « Tu règnes déjà pour l'éternité ». Et lorsqu'on a un esprit religieux, ce qui vient à notre esprit, c'est que j'espère que je vais être sauvé. Parce que je ne goûte pas à la puissance de la vie. Je n'ai pas la conviction que je suis déjà en train de prendre part à un plan. J'attends et j'essaie de prendre part à un plan. Mais l'esprit prophétique confirme à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. L'esprit dit à votre esprit, tu es un enfant de Dieu parce que tu marches par l'esprit et les fils de Dieu marchent par l'esprit. Dans Romains. Vous pouvez lire ça dans Romains. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et c'est je veux juste dire un détail, il n'y a pas d'autre voie que celui de Jésus. Il n'y a pas d'autre façon d'atteindre le royaume de Dieu. Et Jésus a prophétisé sur notre vie concernant ce que nous devions espérer, attendre et vivre. Et voici ce que Jésus nous dit en prophétisant sur nos vies. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il a prophétisé qu'on aurait un esprit de vérité pour accomplir la volonté de Dieu. Dans Jean 16, 13, il dit aussi, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Vous avez entendu un message, vous avez entendu un témoignage ce matin. Le Saint-Esprit m'a révélé des choses que j'ai été accomplir. Et j'ai accompli les choses telles qu'il m'avait été révélées. C'est ça l'esprit prophétique. Si vous ne coûtez pas à cette vie, ça va être difficile de dire, « Seigneur, dirige mes voies. » C'est difficile de dire « Je vois la gloire de Dieu agir. » Et vous allez avoir de la misère à pouvoir dire, hors de tout doute, et même amener une manifestation publique en disant « J'ai brillé parce que l'Esprit de Dieu était sur nous. Et nous avons suivi où l'Esprit nous menait et nous avons vu la gloire de Dieu agir. Et ça, c'est la vie riche et abondante que Jésus nous donne. Vous ne subissez plus votre vie. Vous en jouissez. Vous n'avez pas peur du futur. Vous poursuivez le futur parce que vous savez que ce qui s'en vient est encore meilleur que ce que vous avez vécu. Vivre de façon rassasiée. Vivre de façon désaltérée, parce que lorsque vous commencez à manger du royaume, vous en voulez encore plus. Le royaume ne coupe pas la faim, ne coupe pas la soif. Le royaume vous rassasie de jour en jour et vous désaltère de jour en jour. Vous pouvez boire à grands traits. Vous pouvez manger. Il y a des buffets en haut, de mets succulents, pour vous révéler des choses et des promesses. Voici ce que ça veut dire marcher dans le prophétique. La définition que la parole donne. Celui qui parle selon les oracles de Dieu. Celui qui reçoit par inspiration ce qui est caché. Celui qui est dirigé ou qui est rempli de l'Esprit. Le mot prophétique veut dire celui qui marche de cette façon, qui marche en fonction de ce que Dieu lui a révélé. Et c'est difficile parce qu'il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. Votre plus grand atout s'appelle l'obéissance. Et peut-être la meilleure qualité que vous pouvez avoir, c'est le courage. Parce qu'il n'y a aucune méthode. Je ne peux jamais marcher en fonction de ce que Dieu m'a révélé hier, qui était accompli. Je dois constamment rechercher les nouvelles voies. Lorsqu'on fait face à des situations difficiles, je ne peux jamais aller chercher une vieille prophétie, tu sais, une vieille révélation. Je dois me tenir et dire, maintenant, Seigneur, un nouveau défi, une nouvelle révélation. Je veux savoir comment que je peux percer les choses. J'aimerais terminer, parce qu'il y a seulement le témoignage, je crois, qui peut démontrer l'importance du prophétique dans nos vies. Lorsqu'on est arrivé, moi et Sonia, on est arrivé au Seigneur, on est arrivé à l'Église, Marcel et Rebecca étaient des enseignants qui nous enseignaient à marcher dans le prophétique. On a été appelés tout de suite au début de notre vie chrétienne à marcher selon l'Esprit. Et très tôt, au début de notre vie chrétienne, on a reçu des paroles prophétiques. Et ces paroles prophétiques-là disaient des choses qui étaient tellement au contexte. Parce que lorsque on attendait prophétiquement, c'était des choses d'hommes et de femmes de Dieu qui étaient utilisées par Dieu d'une façon incroyable. Et moi, c'est à peine si j'étais juste capable de prier. Mais Dieu révélait sur ma vie qu'on était pour devenir, sur la vie de ma femme, qu'on était pour devenir des gens utilisés par Dieu, remplis de l'Esprit, pour parler à sa génération. Et on a pris ces paroles et on les a serrées dans notre cœur en disant, maintenant, voici, j'ai un plan de carrière. Voici maintenant notre plan de vie. Et là, avant même qu'on se marie, on s'est dit, est-ce que toi, c'est quoi ton plan de vie? Puis notre plan de vie était de dire, on est nés pour le réveil au Québec. On est nés pour une génération qui voit Christ. Ça fait 25 ans. Et c'est encore d'actualité, plus que jamais. Amen. Parce que... Ah ben écoute, l'Esprit m'a dit, il n'a pas passé seulement par Eugène, mais l'Esprit ne fait que parler et il faut être sourd pour ne pas entendre. Il faut être sourd pour ne pas entendre. Écoute, cette prophétie-là est amenée par des centaines et des milliers de personnes. En ce moment, c'est la prophétie qui est la plus... qui amène l'Église à rentrer dans son appel. Et je ne crois pas qu'on était particulier, moi puis Sonia, mais je crois qu'on était seulement appelé à faire partie d'une église particulière. On était appelé à marcher dans un mouvement, dans un corps qui dépasse nécessairement le 345, les murs de cette église, mais qui s'étend à la véritable église de Jésus-Christ. Et on a vu Dieu agir. Et au début de notre mariage, c'était vraiment ça la clé. On savait qu'on devait mettre notre vie à une disposition prophétique. Vous n'avez aucune idée de toutes les décisions qu'on a prises. Parce que quand tu dis « oui » à quelque chose, tu dis « non » à beaucoup d'autres choses. Et ça serait trop long de vous dire le nombre de fois que j'ai dit non pour dire oui à cette parole. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, le non peut, au niveau financier, parce qu'au niveau du travail, Satan savait très bien où ce que l'ennemi voulait, où ce que Jésus voulait m'emmener, et Satan voulait m'offrir les royaumes de ce monde. Ça peut se chiffrer en plusieurs centaines, sinon en millions de dollars. Mais il n'y a aucun regret. Aucun regret. Parce que l'Esprit dit encore à notre esprit. Je vous ai appelé pour des choses incroyables, on a vu Dieu agir. Et j'aimerais vous amener une partie, parce que là, en ce moment, le prophétique agit beaucoup au niveau de notre famille. Et qui sait, c'est quoi élever des adolescents? D'élever des adolescents qui marchent avec l'Esprit de Dieu. Et que tu les amènes à dire, c'est pas une religion, c'est une relation. Et que tu veux que tes enfants embrassent non pas une culture religieuse, mais qu'ils embrassent le royaume des cieux. De dire, c'est un mandat. Et le mandat commence, premièrement, de dire, si nous ne vivons pas pour que nos enfants soient témoins de voir comment Dieu agit, ils vont penser que la vie chrétienne, c'est seulement de se lever le matin pour aller à l'église. C'est beaucoup plus que ça. Et dernièrement, on a vécu des difficultés dans les années parce que lorsque nos enfants rentrent dans l'adolescence, ils viennent aussi avec une nouvelle possibilité qui s'appelle la liberté, qui s'appelle « je peux faire des choix ». Parce que quand je prends la porte de la maison, il n'y a plus personne qui peut me dire qu'est-ce que faire. Et j'ai la liberté d'aller beaucoup plus loin et de faire beaucoup plus de choses. Et on sentait que nos enfants étaient tiraillés, de dire « ouais, mais tu m'as juste présenté une vie, celle de la vie chrétienne, peut-être qu'il y a quelque chose de mieux ». Et nous, on se tenait dans la présence de Dieu et de dire, Seigneur, fais quelque chose. Et le Seigneur nous avait révélé, j'ai fait une alliance avec votre famille. Et le Seigneur nous avait révélé que nos enfants étaient pour marcher avec nous dans le ministère, marcher avec nous dans l'œuvre de Dieu. Et pour chacun des noms des enfants, Dieu nous avait révélé leur avenir. Pour Naomi, Dieu étant sa grâce, c'est un cadeau de Dieu. Pour Zoé, c'est la vie de l'Esprit, la vie de Dieu. Raphaël, Dieu guérit. Joseph, Dieu donne une destinée, Dieu donne des rêves. Et à chaque fois qu'on nomme leur nom, on leur rappelle leur destinée. Spirituellement, on nomme leur nom en fonction de leur destinée. Et on se tient parce que le Seigneur a dit, je vous ai confié des enfants pour les former comme disciples. Je vous ai formé vos enfants pour qu'ils aient l'héritage, qu'ils puissent recevoir l'héritage des promesses que je vous ai données. Et c'est pas facile, c'est pas facile. On va dire de quoi la société ne travaille pas pour nous. Il n'y a pas rien qui travaille pour nous. La seule chose qui travaille pour nous, c'est comment que nous, on se tient dans l'intercession puis la prière, et comment que nous, on dégage sur leur vie, sinon ils n'entendent rien. Il n'y a pas un poste qui rouvre la TV qui va amener que nos enfants sont appelés pour servir le royaume, rien. Et dans ce cas-là, souvent tu regardes, tu dis, Seigneur, je me sens, j'ai tellement l'impression que tout, que je ne pourrais jamais faire face. C'est comme si on essayait d'élever nos enfants dans Sodome et Gomorre. Il a dit, on n'a rien pour nous. Et le Seigneur a dit, marche dans les voies prophétiques. Obéis à ce que je te demande, et moi, je vais m'occuper de tes enfants. Et ça a été une clé. Lorsqu'on est devenu pasteur, et je veux vraiment shifter pour que vous puissiez voir, lorsqu'on est devenu pasteur ici, nos enfants étaient encore jeunes. Le Seigneur a dit, regardez les promesses que j'ai données à l'Église, parce que les promesses que j'ai données à l'Église sont pour toi et ta famille. Et on a commencé à chercher dans les promesses, dans les prophéties que l'Église avait reçues. Puis l'Église avait reçu beaucoup de prophéties concernant l'intercession. Et dans l'intercession, le Seigneur a dit, tiens-toi à la brèche. Comme Arcusier disait, est-ce qu'il y a un homme qui se tient à la brèche pour le salut de cette nation? J'ai regardé, j'ai vu personne. Et Hart le dit, ah, regarde encore une autre fois, moi je vais être là. Et je vais me tenir dans la brèche, je vais intercéder, je vais déclarer ce que le ciel veut faire sur la terre. Il va y avoir quelqu'un qui va se lever et qui va pleurer pour une génération. Et on a commencé à se mettre dans l'intercession parce que, Seigneur, on est incapable de faire face à un courant aussi fort et si puissant si ce n'est pas toi qui mène le combat pour nous. De dire, j'aurais bien beau essayer de leur prêcher qu'ils vont aller en enfer, mais écoute, oublie ça, l'enfer l'air plus le fun que le ciel. En ce moment, des fois, dans les églises, le monde a de l'air plus attrayant que l'église. Parce qu'il n'y a plus de jeunesse, parce qu'il n'y a plus rien. Mais le Seigneur dit, continue à prophétiser, prophétise. Il y a des choses qui s'en viennent, prépare, tiens-toi à la brèche. Et on a commencé à se tenir à la brèche, puis on a commencé à intercéder. Et là, il y a eu un mouvement qui a commencé à prendre place. Le premier mouvement, c'est de dire, on ne sait tellement pas comment intercéder. Seigneur, comment qu'on fait pour intercéder? C'est comme, on fait quoi? C'est-à-dire, y a-t-il une façon de faire les choses? Puis moi, puis Seigneur, on était bien découragés, puis on avait commencé à regarder ce qui se passait dans le milieu de l'intercession, puis on a vu qu'il y avait une église, dont Mike Bickle de Kansas City, IHOP, International House of Prayer, qui sont des intercesseurs. Puis on regardait dans le fond, on disait, waouh, c'est ça qu'on veut. Écoute, ça fait 15 ans qu'ils intercèdent. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils ont 85 groupes de louanges. Ils ont des centaines d'intercesseurs qui se relient pour être une flamme qui brûle jour et nuit pour la gloire de Dieu. Et on dit, on veut ça. Mais c'était difficile pour nous parce que ni un ni l'autre parle anglais. Puis on dit, comment qu'on peut faire pour aller là? Si toi tu y vas, moi j'y vais, ça ne change pas grand-chose. Puis on était un peu à se questionner, de dire, OK, Seigneur, envoie-nous quelqu'un, faut faire quelque chose ou quoi, quoi. Dans la semaine qui suit, et ça, c'est dans la semaine qui a suivi, on reçoit un courriel. Bonjour, pasteur. Je m'appelle Manon Wagner. J'ai connu ton pasteur, Marcel et Rebecca, et moi, je suis natif de Saint-Jean-sur-Richelieu. Aujourd'hui, moi et mon mari, on sert à Kansas City, à House of Prayer. Et on est de passage à Saint-Jean-sur-Richelieu et on veut juste savoir si vous avez besoin de nous pour que vous puissiez, dans le fond, vous encourager dans l'intercession. On a dit « Alléluia! » On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais ça nous a juste donné, et quand que Tom est venu puis il a commencé à m'exhorter, puis là, j'ai dit « OK, c'est quoi l'intercession? » Il dit « Attends un petit peu. » Il dit « L'intercession, c'est un mode de vie. » Il dit « Voici ce que je veux te dire, c'est de dire, avant de véritablement comprendre comment que Dieu fonctionne, es-tu prêt à donner 10 ans de ta vie à intercéder plusieurs heures semaine? » Il dit, parce que si tu as envie de faire d'autres choses, vas-y. Parce que l'intercession, ça va devenir le centre de ta vie. Il dit, il faut que tu le portes. Il faut que tu comprennes que tu es plus puissant dans l'intercession que peu importe ce que tu fais. Ce que tu pries, ce que tu relâches dans les lieux célestes, est une bataille beaucoup plus puissante que tout ce que tu peux faire dans le milieu de la chair et des œuvres. Il dit une des raisons pourquoi que tu me regardes avec les yeux plissés, il dit, parce que tu n'as aucune idée de ce que je parle. Il dit, il va falloir que tu comprennes et que tu le vois de tes yeux, que tu expérimentes comment que Dieu est beaucoup plus grand que toi. Et à cette époque-là, on est devenus amis avec Tom et Manon, et ces gens-là avaient vraiment à cœur nos enfants. Quelques mois, quelques années plus tard, ma fille, la plus vieille, a commencé à vivre des temps vraiment difficiles dans son adolescence. Et on était vraiment démunis de dire, OK, Seigneur, comment qu'on peut faire? On intercédait et tout. Et Manon, elle a dit, envoie-la chez moi. Envoie ta fille ici, il y a un camp chrétien, puis il y a une maison de prière, envoie-la. Mais si vous connaissez ma fille Naomi, c'est une fille timide Écoute, il faut vraiment qu'elle soit en confiance pour traverser les États à 16 ans qui ne parlent pas anglais, ou très peu. Puis le Seigneur a vraiment fait un œuvre. Puis a envoyé ma fille. Ma fille, elle dit, OK, c'est beau, je veux y aller. Elle veut participer dans un camp chrétien anglophone. Elle ne parle pas anglais. Des gens qu'elle ne connaît pas. En tout cas, ce n'était vraiment pas ma fille, mais on sentait que l'esprit travaillait. Mais Dieu savait que lorsque Manon est envoyée, que c'était du pain pour les jours plus difficiles. Et j'avais aucune idée de quelle porte qu'on venait d'ouvrir prophétiquement. Mais parce qu'on a eu à cœur l'intercession a permis d'ouvrir des possibilités qui m'étaient impossibles d'ouvrir pour des jours qui deviendraient utiles. Cette option-là est à peu près la seule option qu'on pouvait avoir dans laquelle ma fille pouvait répondre pour aller. Naomi est revenue de Kansas City complètement transformée. Elle avait faim et soif De voir le ciel ouvert. Et elle a vraiment continué à grandir. Elle a fait des voyages missionnaires, puis elle a eu à cœur de vraiment faire une formation de disciples. Puis elle est partie pendant 6 mois à Jeunesse en mission à Hawaï pour faire de la formation de disciples. Et partie. Et encore une fois, on cherchait une place pour l'envoyer, et c'est Hawaï qui était vraiment de dire, on ne sait pas pourquoi on ne connaissait pas, mais Hawaï a brillé plus que toutes les autres. Puis on s'est dit, Hawaï a quelque chose que les autres n'ont pas. Il y a quelque chose qui est attaché à notre famille que les autres n'ont pas. Et on ne savait pas c'était quoi, mais on a dit, Seigneur, OK. Naomi s'en va avoir, elle rencontre un jeune garçon rempli d'esprit qui travaille pour Jeunesse en mission et qui a exactement les mêmes révélations de voir le réveil arriver et d'avoir une génération. Et pour ma fille qui se demandait comment elle était pour faire pour trouver un mari, bien, trouve un compagnon dans lequel elle est excitée puis elle voit, elle est formée, ils ont des projets concernant leur avenir, ainsi de suite. Est-ce qu'on, il y a vraiment des portes qui sont ouvertes. Puis on dit, merci Seigneur, il y a seul toi qui peux faire ça. Pendant ce temps-là, notre deuxième fille vit des choses difficiles, prend des décisions qui ne font vraiment pas notre bonheur. Puis on est vraiment, ma mère aussi, elle doit se tenir quelque part. En tout cas, moi et sa mère, on graffinait. C'est-à-dire, dans notre vie, dans notre façon de faire les choses, il y a deux choses qui sont non négociables. Nos enfants n'iront pas en enfer. Ils vont servir le ciel. Ils vont servir le royaume. Ça, c'est non négociable. Je me lève dans la nuit pour haïr celui qui essaie d'arracher mes enfants. Et je suis et on est non négociable. Parce qu'on sait ce que ça, on sait comment que Dieu aime ceux qui se tiennent non négociables. Puis il dit, Seigneur, fais une alliance avec nous. Et pendant que ma fille prenait des mauvaises décisions puis qu'il vivait des choses, dans mon groupe de croissance, le Seigneur a dit, Joanne, par mon leader, il m'a donné une parole concernant une histoire dans Genèse où ce que Noé est appelé par Dieu, puis Dieu dit à Noé, je fais une alliance avec toi et ta famille. Et je veux que tu mettes ton énergie à construire une arche et de mettre de la nourriture parce que ça va être leur salut. Et j'étais dans mon esprit, puis je me dis, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Il dit, premièrement, j'ai fait une alliance avec ta famille. Fait que là, c'est mon problème, c'est plus le tien. Mais toi, œuvre dans l'Église ce que je t'ai donné, puis bâtis ce qu'il faut. Je t'ai donné une vision cellulaire, je t'ai donné des choses à faire. Je veux que tu t'appliques et que tu mettes tout ton cœur, parce que ça va être la nourriture pour cette génération-là, pour ta fille qui s'en vient. Et lorsqu'on a commencé à prendre cette parole-là, ma fille est à l'antipode. Mais je dis, Seigneur, maintenant j'ai un plan de match. Je me tiens sur un plan de match. Je ne regarde pas aux circonstances et je marche. Mes enfants vont suivre le Seigneur. Et une soirée en tant que telle, moi j'avais reçu une parole et ma Sonia a continué à prier. Et une soirée, il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 2-3 semaines de ça. Ma femme était à un vendredi d'adoration et le Seigneur lui a dit, tu vas aller en avant puis tu vas briser les chaînes. Parce que le chant prophétique était, on met fin au chaos. Alors, elle est allée en avant avec mes deux plus jeunes, puis ils se sont mis à danser en disant, c'est fini. Le chaos est fini pour ma fille Zoé. Ils se sont mis à danser. Et on croit que dans ces heures-là, il y a quelque chose qui est brisé dans son esprit. Et dans la même soirée, Sonia texte ma fille, puis elle dit, Zoé, il y a quelqu'un, il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes entendre. Parce qu'il y a une parole pour toi, il y a une parole, il y a quelque chose. Puis je pense, puis elle a dit oui. Écoute, on était à 100 milieux là, de dire l'Église puis spirituelle, là, puis il y a vraiment eu un changement, un chiffre qui s'est fait. Et elle est venue, elle a reçu une parole prophétique et son cœur a complètement changé. Aujourd'hui, Zoé et Naomi sont à Hawaï. Ils sont sur l'île d'Hawaï. Naomi, pour prendre du temps avec son copain, et Zoé, pour prendre la décision, ça a fait son formation de disciple pour 6 mois. Et on est très excités. Et la cerise sur le Sunday, c'est que quand ma fille revient, et Raphaël, ma troisième, j'ai 4 enfants, et ma troisième qui a 15 ans, elle va avoir 16 bientôt. Dans le fond, eux veulent vraiment s'impliquer au niveau des cellules. Fait que eux, ces deux-là reviennent. Bien, ma fille est déjà là, mais quand que ça commence le 4 septembre, il y a aussi une nouvelle formation au niveau du 10-10, des groupes de croissance. Puis mes deux filles disent, nous, on veut participer parce qu'on veut aussi être développé comme disciple, parce qu'on veut voir l'esprit agir en nous, puis on veut marcher d'une façon prophétique. Alors, il y a un plan de marche que Dieu vous donne. Il y a un plan de marche que Dieu vous donne. Ce plan de match-là ne ressemblera peut-être pas à la personne d'à côté de vous. Mais par exemple, ce plan de match-là va changer complètement votre situation. Je sais c'est quoi élever des enfants au Québec. Je sais que c'est 99,9 des enfants qui partent pour le monde. Je suis conscient de dire que la game est perdue avant même d'avoir commencé. Si c'est seulement vos inquiétudes que vous avez comme discours et comme pour essayer de les ramener, oubliez ça. Vous ne serez pas capable de passer au travers. Et c'est la même chose pour les conjoints. C'est la même chose pour les, dans la famille, les conjoints. De dire, si vous êtes animé seulement par ce que vous voyez et non pas ce qui vous est révélé, vous verrez très peu de choses changer. Peut-être que le Seigneur va te dire, laisse ça de côté, fais d'autres choses. Laisse-moi, je vais m'en occuper. Obéissez. Moi, je crois que la Gaspésie a été un vecteur incroyable pour ce qui s'est passé avec sa fille. Moi, je crois que l'intercession a été le début d'une porte qui a amené tellement d'opportunités pour que mes enfants soient touchés par l'Esprit. Parce qu'en obéissant, Dieu dit maintenant, tu me donnes pleine autorité pour ouvrir toutes les portes qui sont nécessaires pour faire en sorte que ta famille ait du pain, puis qu'il y ait de l'eau à boire, puis qu'ils soient rassasiés. J'ai ma faim. Vous savez, tu peux aller au dernier verset. Il y a des choses que je n'ai pas nommées, mais qui sont tellement importantes. Je vais quand même faire vite, là, mais c'est trop important. Je ne peux pas le laisser aller de dire, si vous marchez de façon prophétique, c'est que vous êtes dirigé par l'Esprit. Vous devez savoir que l'Esprit ne marche pas avec tout ce que le monde fait. Il y a des choses qui sont incompatibles au Saint-Esprit. Mais que le monde dise, c'est pas grave, mais spirituellement, c'est grave. Et je vais vous dire seulement quelques points dans lesquels, dans Lévitique 24:16, qui dit, pas 24:16, dans Lévitique 26, qui dit, si quelqu'un s'adresse aux morts, aux esprits, pour se prostituer auprès d'eux, je tournerai ma face contre cet homme. Ne parlez pas aux morts. Parce qu'ils ne peuvent rien faire, parce qu'ils n'ont pas ce pouvoir-là. Et ceux-là qui vous parlent, ce n'est pas les morts. Ce n'est pas celui que vous pensez qui va vous adresser. Ne tournez pas votre pensée à un autre esprit que le Saint-Esprit. Le seul et unique celui qui peut vous adresser des plans de bonheur et des plans de vie, c'est le Saint-Esprit. Tous les autres esprits, c'est la mort. Ça va finir la mort. Et il y a très peu de gens qui sont capables d'avoir ce discernement-là parce qu'ils regardent en fonction de ce qu'ils voient, au lieu d'avoir la révélation de dire « montre-moi ce qui se passe vraiment ». Aujourd'hui, il y a des pratiques que les gens font en disant « ah, c'est relaxant comme le yoga ». Mais le yoga est une des premières portes pour amener l'esprit de confusion. Parce que cette doctrine-là puise sa force dans quelque chose qui dit « fais le vide ». Quand que Dieu dit « fais le plein ». Sois rempli de l'esprit. Puis Dieu fait le vide. Mais quand tu fais le vide, ce qui rentre, tu n'as aucune idée de ce qui peut rentrer. Et c'est la même chose pour les pratiques. Aujourd'hui, on parle des pratiques immorales que la Bible dit, c'est immoral. Une femme ne portera pas un habillement d'un homme. Les vêtements d'un homme. Un homme ne couchera pas avec un homme comme il couche avec une femme. Et tu ne coucheras pas avec une bête non plus pour te souiller. Et aujourd'hui, ces choses-là sont au milieu de nous. Que ce soit l'homosexualité, que ce soit le transgenre, la bisexualité, la zoophilie, la pornographie, que ce soit toutes ces pratiques immorales. L'homme marié peut être immoral s'il se tourne vers la pornographie, la convoitise de d'autres femmes, parce qu'il ne respecte pas l'alliance de son mariage. Il est aussi pécheur que l'homosexuel. C'est une question où ce que le Saint-Esprit de dire, je ne peux pas œuvrer si tu tournes ta vie vers une destination autre que celle que moi j'ai prévue pour que ta gloire vienne sur ta vie. Tu ne peux pas briller lorsque ton corps est livré pour une œuvre de destruction. Les gens disent, puis je les comprends, et je ne suis pas en colère contre eux, mais j'ai de la compassion pour eux. Quand ils disent, ouais, mais Joanne, c'est seulement une pulsion sexuelle, c'est une émotion, je veux pas m'attaquer à Dieu. J'ai eu des amis qui avaient des vies, qui avaient une vie sexuelle, qui étaient, et ces gens-là, c'est l'ignorance. Je poursuis le bonheur. Mais j'arrive jamais à le goûter, j'arrive jamais à le saisir, ni dans l'homosexualité, ni dans les fréquentations multiples, j'arrive jamais à travers ma sexualité de trouver ce que je cherche. Et j'ai bien beau m'investir et devenir de plus en plus immoral, le vide de plus en plus grand. Vous savez ce qui est triste? C'est que Satan tire beaucoup de profit parce qu'on laisse notre irritation les repousser au lieu d'avoir notre compassion pour les gagner. Ces gens-là ont besoin de goûter à la vie de l'esprit. 50 % des gens qui vivent dans l'homosexualité ou dans les transgenres, 50 % de eux font des tentatives de suicide parce qu'il y a un esprit de mort qui est relié à eux. On n'est pas en guerre contre le sang et la chair. On n'est pas en guerre contre les individus. Dieu aime passionnément, de façon à la folie extravagantement, le pécheur. Ce qu'il déteste, c'est le péché. Marcher de façon prophétique, vous devez, premièrement, dans votre esprit, ne pas laisser un autre esprit prendre place. Et la Bible a dit, c'est pas seulement de pratiquer, mais de cautionner aussi. Fait la même chose. Si tu cautionnes un avortement, tu es responsable en même titre et tu vas avoir les mêmes conséquences. Parce que dans les lieux célestes, tu as donné l'autorisation à un esprit de dire maintenant tu marches selon ma vision. Et les conséquences sont grandes spirituellement. Je suis arrivé à une période de ma vie vers 33, 34 ans où ce que je réalisais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales dans ma maturité. Il y avait quelque chose qui fitait pas avec l'homme que j'étais et ce que je vivais et l'appel que Dieu avait sur ma vie. Et je sentais qu'il y avait des choses qui m'empêchaient de grandir. Et je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. J'avais réglé la colère, j'avais réglé bien les affaires, mais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui faisait que je sentais qu'il manquait quelque chose. Et je me suis mis à prier pour dire, « Seigneur, viens me révéler ce qui m'empêche de bloquer. » Et peut-être 6 mois plus tard, ma mère est venue me voir. Et ma mère m'a dit, « Le Seigneur m'a révélé que je devais te demander pardon pour 5 choses spécifiques. » Et j'ai dit, maman, j'ai dit, c'est super parce que ça fait 6 mois que je prie pour que quelque chose comme ça arrive. J'ai dit, shoot, shoot. J'ai dit, je veux l'entendre. Elle a dit, première chose. Elle a dit, lorsque j'étais enceinte de toi, on vivait, moi et ton père, quelque chose d'extrêmement difficile au niveau financier. Et ton père me dit, ça serait bon qu'on avorte. Parce qu'en ce moment, c'est pas un bon temps. Puis elle dit, Hubert, il s'appelait Hubert, elle dit, c'est Dieu qui nous le donne. Fait qu'elle dit, on ne mettra pas fin à un plan que Dieu a pour nous. Puis il a dit, ouais, c'est ça. Mais elle dit, je te demande pardon parce que le Saint-Esprit m'a révélé qu'à ce moment-là, un esprit de peur est tombé sur toi. Ton père t'a lié avec un esprit de peur. Il a rentré seulement parce qu'il a cautionné une pratique qui est contraire à l'esprit. Et quand que j'ai demandé à Christ de venir, de dire, je veux que tu brises cet esprit de peur dans ma vie, j'ai véritablement compris de où cet esprit de peur-là a engendré un esprit d'orphelin, un esprit de quelqu'un qui doit toujours se demander s'il est à la hauteur, de savoir s'il est capable de faire telle ou telle chose. C'est comme si je manquais tellement de confiance en mes ressources que je préfère rien faire que de faire quelque chose dans le peur de me tromper. Et j'ai avorté énormément de projets. Parce que j'ai répondu à la peur au lieu de marcher avec un esprit de conviction et de certitude. Et quand ça a tombé, il y a vraiment quelque chose qui a changé. Alors, demandez au Saint-Esprit de vous révéler comment faire en sorte pour être capable de marcher dans le prophétique, pour entendre la voix. Il y a des choses qui te semblent tellement banales au vu de la société parce qu'ils sont tellement rendus aussi communs qu'on a l'impression que ça fait partie d'un mode de vie. Mais ces pensées-là, ces choses-là, tuent le prophétique en vous. On est dans une période où je peux vous garantir que vous allez briller au milieu des ténèbres. Et vous allez faire la différence comme jamais vous avez fait. L'esprit religieux est en train de laisser place à un autre esprit. Qui est littéralement un esprit qui va être qui va amener beaucoup de contradictions. Mais parce que vous allez avoir l'esprit de vérité, vous allez faire une différence comme jamais vous avez fait auparavant. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'aimerais vous lire un verset dans Isaïe 49, 10 qui dit, et je crois que c'est vraiment ce que nous, on est en train de vivre. Isaïe dit, « Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Il les conduira vers des sources d'eau. » Et c'est vraiment un temps où ce que le Seigneur veut dire à notre esprit, « J'ai des projets de bonheur pour ta vie. Je vois ta situation comme tu la vois. Ne repose pas de regard inquiet. Regarde à moi, j'ai des plans de vie. » Obéis à ce que je te demande. Obéis à ce que je vais mettre devant toi et prends courage. Prends courage. Seigneur, on veut vraiment te laisser agir dans ces temps. Seigneur, on croit que tu as une ligne dans nos vies qui va faire qu'on va se lever et briller et qu'on va avoir un ministère puissant de réconciliation. Où on arrive, dans les endroits où on va arriver, qu'il va y avoir des esprits qui vont être là pour amener division, qu'il va y avoir des esprits qui vont amener pour amener désolation, dépression, maladie, ou peu importe. L'esprit de vie qui est en nous va agir parce qu'il va nous donner le chemin pour être capable de passer à travers la vallée de la mort pour amener la vie. Et Seigneur, les temps sont arrivés où l'Église doit sortir de son carcan religieux pour rentrer dans son esprit de vie, d'accomplir les paroles et les œuvres qui sont prédestinées pour chacun d'entre nous. Seigneur, relâche sur nous ton onction, ton écoute. Seigneur, que pour certains, c'est un temps de repositionner pour aller rechercher les paroles qui ont été dites sur leur vie. Pour d'autres, c'est de dire, Seigneur, déverse sur ma vie des paroles. J'ai besoin de connaître tes pensées pour moi. Et pour certains, c'est vraiment de dire, Seigneur, j'ai des choix à faire. J'ai des choses à mettre devant toi parce que je veux marcher selon tes standards. Et Seigneur, je veux que cet esprit de confusion puisse me quitter pour que je puisse marcher avec une pleine assurance. Seigneur, montre-moi où d'autres esprits influencent mon esprit. Parce que je veux être pleinement livré à l'obéissance du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur pour ton œuvre. On va faire un chant et après ça, si certains d'entre vous qui veulent avoir des paroles, une guérison, qui veulent avoir de la prière sur leur vie, venez en avant, les deux cellules, les responsables de cellules vont prier pour vous. Ne partez pas d'ici. Si vous sentez que le Saint-Esprit a pointé quelque chose dans vos vies, ne partez pas d'ici. C'est à partir d'aujourd'hui, à partir de ce moment, quelque chose peut commencer à prendre place dans votre esprit. Et dans les jours qui vont suivre, quelque chose va se dresser comme un autel où Dieu dit, fais une alliance avec moi. Fais une alliance avec moi. Fais une alliance avec moi. Fais-moi confiance que les plans que j'ai pour ta vie sont supérieurs à tout ce que tu as même pu rêver. Fais alliance avec moi. Alléluia.